Le journal de la rédaction vous est présenté par Adrien Taufollet. Bonsoir.
Bonsoir. Fin du congrès du Modem à Paris et discours de clôture pour François Bayrou. Il appelle à une maison commune avec La République En Marche, évoque une alliance pour les européennes et plus encore, vous l'entendrez dans un instant. Un petit peu de hauteur ensuite avec notre invité Alexis Massard, politologue spécialiste du Centre, qui va décrypter pour nous cette séquence politique unique en France où la voix du milieu, grâce ou à cause d'Emmanuel Macron, pourrait s'imposer dans la durée. Dans ce journal également, les musulmans d'Indonésie qui protestent contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump, manifestation dans les rues de Jakarta racontée par notre correspondant. Et puis à 4 jours des élections régionales en Catalogne, c'est toute la classe politique espagnole qui se mobilise, mais pas que, des Français aussi sont sur place. Juste après ce journal, dimanche et après, ce soir, on sauve les centres-villes, Julie Gacon.
En tout cas, on en parle de ce plan action cœur de ville que le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, a dévoilé vendredi à Rodez, à destination des centres-villes, des villes moyennes qui n'en finissent pas de s'éteindre. On en parlera avec le journaliste Olivier Razeron et le maire de Sceaux, Philippe Laurent, vice-président de l'association Centre-Ville en Mouvement.
Rendez-vous à 18h14. C'est la renaissance d'une alliance, celle qui avait propulsé Emmanuel Macron à la présidence de la République et qui avait amené François Bayrou au gouvernement. Un temps mis de côté suite aux révélations des affaires d'assistants parlementaires, François Bayrou a fait du congrès du Modem ce week-end la pose d'une nouvelle pierre au grand et puissant édifice centriste dont il a toujours rêvé. Édifice qui doit s'ériger dans les années à venir avec comme prochaine étape les élections européennes de 2019. Le patron de La République En Marche, Christophe Castaner, annonce cet après-midi une possible liste élargie, transpartisane, avec LREM et Modem comme socle et François Bayrou en tête de liste. Ce dernier, François Bayrou, lui voit plus loin dans son discours de clôture du congrès aujourd'hui. Il imagine un mouvement du centre bien plus ambitieux et durable. On l'écoute.
Nous avons reconstruit, rétabli la possibilité pour notre pays d'une majorité cohérente centrale. Maintenant, il faut l'organiser. Chacun pour notre compte, mais aussi ensemble. Et cet ensemble, cette maison commune, comme je dis, pour rendre plus solide la démarche de ceux qui défendent la majorité centrale, pour préparer les élections, accessoirement, mais pas uniquement. Nous voulons cette organisation parce que nous voulons que ce grand courant qui porte aujourd'hui la politique et l'avenir du pays, il soit vivant et fort et enraciné pour des décennies, pour les décennies qui viennent, pour l'avenir de la France.
Voilà François Bayrou, propos recueillis par Aurélien Colli. C'est donc en ce moment la recomposition des centres qui est en marche, sans mauvais jeu de mots. Pour en parler, nous accueillons au téléphone Alexis Massard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du centre et plus officiellement directeur d'ESPOL, l'école européenne de sciences politiques et sociales. Vous venez d'entendre François Bayrou parler de l'alliance LREM-Modem comme d'une maison commune. Mais est-ce que selon vous, est-ce une alliance réelle entre des partis complémentaires ou seulement une alliance d'apparence à cause du caractère omniprésent et omnipotent du mouvement présidentiel ?
Complémentaire, ça l'est, puisque François Bayrou, dès le mois de février, s'est retiré de la course de la présidentielle pour soutenir Emmanuel Macron. Donc, il y a une complémentarité, ça c'est très clair. Maintenant, l'enjeu pour François Bayrou est de retrouver une place, c'est-à-dire que son rêve qu'il a exprimé depuis 10 ans est enfin réalité, puisque une force centrale s'est imposée sur le pays, mais ce rêve s'est un peu fait sans lui, même s'il a contribué, hein, il faut pas minorer son impact, mais en tout cas c'est pas lui qui en est à la tête. Donc il faut maintenant reconstruire une dynamique qui, après l'épisode du mois de juin, n'était pas forcément évidente.
Mais est-ce que, alors, François Bayrou, vous voulez dire qu'il est mis de côté? On voit qu'il y a Édouard Philippe, Nicolas Hulot qui sont au gouvernement, et même Alain Juppé qui fait des petits clin d'œil au mouvement d'Emmanuel Macron. Est-ce que dans ce mouvement qui converge, est-ce que dans cette nouvelle force centriste, François Bayrou a un petit peu un rôle dans l'ombre ?
Il a un pouvoir d'influence, ça c'est très clair, c'est quand même une des grandes figures de la vie politique française, donc même s'il a connu quelques petits problèmes il y a quelques mois, son influence n'a pas disparu pour autant. Ceci étant, François Bayrou a aujourd'hui un intérêt pour La République En Marche, c'est-à-dire que cela permet au parti du président à ne pas apparaître comme étant monolithique, mais étant vraiment au centre d'une majorité qu'il entend l'étendre naturellement vers le Modem, puisqu'ils sont alliés depuis là quelques mois. Des tentatives existent, on l'a vu récemment avec les réformateurs, les quelques réformateurs qui restent au Parti Socialiste. La droite est en pleine recomposition avec l'apparition du mouvement Agir, derrière Franck Riester. L'UDI est en pleine explosion avec une reprise d'autonomie des radicaux, du mouvement d'Hervé Morin. Donc il y a tout un mouvement qui est en cours, et l'enjeu pour La République En Marche est d'essayer de fédérer ces différentes forces autour d'elle, justement pour apparaître comme étant diverses comme majorité et pas uniquement macroniste.
À côté de ça, vous le disiez, il y a l'UDI, ou plutôt ce qu'il en reste, avec des défections en pagaille. Il y a 5 ans, ce devait être l'avenir du centre, mais ils n'ont pas vraiment eu besoin d'Emmanuel Macron pour exploser.
Non, ils n'ont pas eu besoin effectivement d'Emmanuel Macron pour exploser. Ceci étant, il a quand même donné un sacré coup de main, puisqu'il a un peu explosé quand même l'ensemble du système politique. Le problème de l'UDI, c'est qu'il est double aujourd'hui. C'est un problème de positionnement par rapport à une force centriste qui s'affiche comme telle, alors que l'UDI revendiquait toujours un positionnement du centre-droit. Et le deuxième problème, souvent très clair aussi, et c'est important dans la vie politique, c'est depuis le retrait de Jean-Louis Borloo, l'absence absolue de leadership. Donc, quand on cumule ces deux éléments, effectivement, là, l'UDI est en pleine crise et est en voie de disparition.
Parce que Jean-Louis Borloo fait lui aussi des clins d'œil à Emmanuel Macron.
Oui, il fait des clins d'œil à Emmanuel Macron, mais il n'est plus en première position d'une formation politique. C'est ce qui avait permis à l'UDI de renaître, soyons très clairs, c'est dans la dynamique de Jean-Louis Borloo que tout le monde s'était rassemblé avec l'idée de recréer l'ex-UDF. Son retrait a quand même posé problème, et aujourd'hui, l'UDI se cherche un positionnement.
Pour conclure, on l'a entendu pour François Bayrou dans son discours de clôture, il disait qu'on était dans une séquence politique qui allait durer des décennies. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
Ce n'est pas à exclure. Maintenant, si vous avez envie politique, je crois qu'il faut prendre le réflexe de ne pas se projeter à trop long terme. Ceci étant, les autres mouvements sont tellement atteints aujourd'hui. La gauche social-démocrate est dans un état lamentable. La seule opposition de gauche qui apparaît réellement est autour de Jean-Luc Mélenchon. Les Républicains se recomposent autour d'un Laurent Wauquiez qui a tendance à droitiser son discours, et donc les forces plutôt de centre-droit s'en échappent. Donc effectivement, il y a un boulevard pour une force centriste. Maintenant, de là à dire que ça va durer des décennies, comme l'annonce François Bayrou, je pense qu'il faut raison garder. Et ça dépendra aussi des prochaines échéances électorales, les européennes bien évidemment, les échéances territoriales, mais aussi la capacité à avoir une dynamique plus européenne du mouvement politique. Et ça, on pourra le voir dans les mois qui viennent.
Est-ce que François Bayrou pourra signer son retour s'il est tête de liste aux européennes ?
François Bayrou est un animal politique, il l'a montré à plusieurs reprises, on l'a enterré à plusieurs reprises et il est toujours revenu. Donc oui, rien n'est à exclure, mis à part effectivement la poursuite de l'affaire sur les assistants parlementaires, et on verra bien ce que la justice en dira.
Merci Alexis Massard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur d'ESPOL, l'école européenne de sciences politiques et sociales. Sa parole devait être rare, c'est finalement la deuxième fois en 2 mois qu'il s'exprime à des journalistes. Emmanuel Macron offrira une interview à France 2 ce soir, juste après le journal de 20h, une interview enregistrée en marge du sommet dédié à la lutte contre le réchauffement climatique cette semaine, le One Planet Summit. Au programme de cet entretien, des dossiers internationaux comme la guerre en Syrie et les relations diplomatiques avec le président américain Donald Trump, mais aussi l'écologie ou encore l'avenir de l'audiovisuel public. En revanche, le chef de l'État ne devrait pas parler du projet immigration-asile dévoilé ce matin dans les pages du JDD, projet qui prévoit un durcissement du droit d'asile et une augmentation du nombre d'expulsions de sans-papiers, un taux répressif dénoncé par les associations d'aide aux migrants et qui laisse perplexe plusieurs membres de la majorité. Les migrants, une crise qui s'impose comme un défi pour la France, mais aussi pour l'Europe. France Culture y consacrera son antenne demain lundi pour la Journée internationale des migrants. Une tentative d'attentat déjouée en Russie. Les autorités russes annoncent avoir appréhendé les auteurs d'un projet terroriste qui visait la cathédrale Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. Et ce, grâce à des renseignements fournis par la CIA. Vladimir Poutine a téléphoné à Donald Trump en personne pour le remercier, explique ce soir le Kremlin. Plusieurs dizaines de milliers de musulmans aujourd'hui dans les rues de Jakarta, voilà qui n'est pas fréquent. D'autant plus que les manifestants protestaient contre la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. L'Indonésie, c'est le premier pays à majorité musulmane au monde et il s'agit de la plus importante manifestation dans l'archipel depuis l'annonce de la décision du président américain à Jakarta, la correspondance de Joël Bronner.
À Jakarta, les manifestants largement vêtus de blanc se sont donné rendez-vous au pied du monument national, large colonne coiffée d'une flamme dorée au cœur de la capitale indonésienne, qui se situe à quelques mètres seulement de l'ambassade américaine, entourée de barbelés pour l'occasion. Car c'est bien en priorité à Washington que s'adressaient les messages de libération de la Palestine et les slogans exhortant les États-Unis à revenir en arrière sur leur décision de consacrer Jérusalem comme capitale d'Israël. Malgré un début de mobilisation poussif, le mécontentement populaire prend de l'ampleur dans la capitale indonésienne et fédère davantage au fil des rassemblements. Pour preuve, le rassemblement d'aujourd'hui a été organisé par la plus haute instance islamique du pays, avec le soutien en particulier du gouvernement. L'un des organisateurs a notamment appelé les Indonésiens, quatrième pays le plus peuplé du monde avec 265 millions d'habitants, à boycotter les produits américains si Washington persévérait dans sa nouvelle politique au Proche-Orient.
Joël Bronner, c'est une campagne hors norme et inédite qui se déroule en ce moment en Espagne. Nous sommes à J-4 avant les élections régionales catalanes qui auront lieu jeudi prochain, le 21 décembre. La campagne électorale bat son plein avec notamment des discours par vidéoconférence depuis Bruxelles pour Carles Puigdemont, l'ex-président de Catalogne, mais aussi une tête de liste en prison ou encore des hommes politiques français, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Valls, qui en ont profité cette semaine pour se rendre en Catalogne afin d'apporter leur soutien à différents candidats. Éclairage depuis Madrid de Marie-Hélène Balestero.
Jean-Luc Mélenchon a été le premier à faire le déplacement en Catalogne vendredi dernier. Il a participé au meeting de campagne de Xavier Domènech, tête de la liste catalounienne Comú Podem, alliance du parti de la maire de Barcelone Ada Colau et de Podemos. Mélenchon entretient depuis longtemps des rapports privilégiés avec le parti de la gauche radicale espagnole. Le leader de la France insoumise n'a pas hésité à haranguer la foule en espagnol. Mélenchon défend l'idée d'un référendum pacté en Catalogne, c'est-à-dire accepté par Madrid. Et d'après lui, la formation est Comú Podem est la seule qui mise sur le dialogue et la réconciliation en Catalogne. Hier, c'est Manuel Valls qui est revenu à Barcelone pour une journée marathonienne. L'ancien Premier ministre français très impliqué dans la campagne a participé à trois actes. Le matin, il a apporté son soutien au Parti populaire de Rajoy au cours d'un débat public où il s'est assis aux côtés de la ministre de la Défense et du candidat du Parti populaire catalan, Xavier Albiol. Et puis à la mi-journée, il a participé à un meeting d'un autre parti, Ciudadanos. Valls a voulu apporter son soutien à la chef de l'opposition au Parlement catalan, Inés Arrimadas, qui ne cesse de grimper dans les sondages. PP, Ciudadanos, Manuel Valls a souhaité en fait appuyer les partis dits constitutionnalistes qui luttent contre le projet indépendantiste catalan. Mais qu'en est-il du Parti socialiste catalan? Eh bien, l'ancien Premier ministre socialiste français s'est entretenu en privé en début de semaine avec le chef de file socialiste catalan, Miquel Iceta, mais Valls n'a participé à aucun acte de campagne à ses côtés.
Marie-Hélène Balestero, on s'attendait à une réaction européenne à la coalition formée par la droite et l'extrême droite en Autriche et l'entrée en force de ces derniers au gouvernement à des ministères régaliens. Mais la première et la seule pour l'instant prise de parole vient de la Turquie. Ankara a fustigé aujourd'hui le programme du nouveau gouvernement autrichien, une orientation politique basée sur la discrimination et la marginalisation, dit le ministre turc des Affaires étrangères. Il faut dire que l'alliance des deux partis autrichiens opposés à une adhésion de la Turquie à l'Union européenne, l'alliance a été scellée hier dans un lieu hautement symbolique, le mont du Kahlenberg à Vienne, symbole de la reconquête des forces chrétiennes contre les Ottomans en 1683. La météo, du temps maussade pour demain et humide sur la majeure partie du pays. Le matin, quelques éclaircies à espérer des pays de la Loire au Hauts-de-France et dans le sud, sur le Var et les Alpes-Maritimes. L'après-midi, le soleil s'imposera un peu plus selon la même configuration. Côté température, les moyennes le matin évolueront entre 0 et 11 degrés, entre 0 et 13 degrés l'après-midi.